Le thème de cette méditation est le retour de la gloire de Dieu parmi son peuple. Nous voici à la fin de l'Ancien Testament, à la dernière page. Elle se termine symboliquement par le geste de Marie et Joseph qui accomplissent tout ce que la loi de Moïse prescrivait. Bientôt, il n'y aura plus besoin du temple. On pourra même le détruire. Dieu, en personne, est venu en prendre la place au milieu de son peuple. Le texte de Luc que nous venons d'écouter fait partie du récit de la plus belle histoire du monde, la naissance de notre Sauveur. La plus incroyable aussi, car ce petit bébé qui a dormi sur la paille dans la mangeoire, cet enfant dont il est dit au verset 40 qu'il croissait et se fortifiait, qu'il était rempli de sagesse, que la grâce de Dieu était sur lui, cet enfant en effet est le signe visible de la grande miséricorde de Dieu. Oui, c'est le signe visible de l'amour de Dieu qui s'est incarné dans une chair comme la nôtre afin que tous ceux qui croiront en lui ne périssent pas, mais qu'ils aient la vie éternelle. Il y a quelques jours, nous avons fêté sa naissance. Aujourd'hui, dimanche, c'est le jour de la Sainte Famille. Nous allons voir donc maintenant comment Jésus a vécu son adolescence. Il est vrai que les évangiles sont particulièrement discrets sur les 30 premières années de la vie de Jésus. Mais nous allons découvrir que pour effectuer plus tard son ministère, elles ont été très importantes dans sa vie. Il est évident que Jésus a vécu une véritable vie d'enfant. Il est né faible, il a appris à se tenir debout, à marcher, à parler. Il a vraiment revêtu notre humanité, comme n'importe lequel d'entre nous. Il était soumis à ses parents. Il a appris à obéir, à servir. Il devait sûrement aider sa mère dans toutes les tâches multiples de la vie domestique. Aller puiser de l'eau, faire ceci, cela, chercher du bois. Enfin, accepter toutes les servitudes sans gloire de notre condition. Plus tard, il apprendra le métier de charpentier avec Joseph. C'est ce que nous révèle ceux qui disaient de lui, « N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie ?» Évidemment, au début, comme tous les apprentis, il a sûrement dû donner un petit coup de rabot de trop, un petit coup de scie de travers, il s'est peut-être même tapé sur les doigts, ça c'est possible. Mais il apprendra à dessiner, à mesurer, à calculer, à être précis. Mais tout cela dans une atmosphère, à mon avis, rude, mais cependant sans péché, avec des preuves manifestes de sa nature divine en lui. Il y a d'ailleurs deux versets, 40 et 50, qui résument cette enfance. N'est-ce pas? Il est dit que Jésus grandissait en sagesse, en stature, devant Dieu et devant les hommes, obéissant envers ses parents, doux envers tous. Jésus suscitait l'admiration et la sympathie. Il devait être docile, modeste, serviable, sans aucun des défauts qui ternissent souvent la vie des enfants. Nous savons que dans la vie de tout enfant juif, il y a deux événements très importants. Le premier, c'est le huitième jour après sa naissance, lorsqu'il est circoncis. Ensuite, le deuxième, c'est à 13 ans, lorsqu'il atteint sa majorité religieuse. Il devient, selon le Talmud, bar mitzvah. Il fait alors partie du peuple sacerdotal, et comme tel, il doit observer la loi intégralement. Aller à Jérusalem une fois par an pour les fêtes de Pâques, c'était une obligation pour tout Israélite. Et c'est justement de ce deuxième événement dont il est question maintenant. C'est pourquoi, lorsque Jésus eut 12 ans, ses parents montèrent à Jérusalem, au temple. Lorsque les jours de fête furent achevés, sur le chemin du retour, après une première journée de marche, arrive le soir, où tout le monde se regroupe pour le repas et le repos de la nuit, car dans ce temps-là, les pèlerins organisaient leur voyage en groupe pour se préserver des voleurs et des bandits. Alors on imagine très bien l'angoisse de Marie et de Joseph en constatant l'absence de Jésus. Pendant la journée, ils ne s'étaient pas inquiétés, pensant qu'il était avec les autres enfants. Ça prouve d'ailleurs qu'ils lui laissaient une certaine liberté et qu'ils avaient confiance en lui. Plus loin, au verset 50, il nous dit « il leur était soumis ». Donc, pour Marie et Joseph, la nuit a dû être longue. Alors le lendemain, dès l'aube, ils retournent seuls à Jérusalem. Dès leur arrivée, sûrement en fin d'après-midi, ils interrogent les uns les autres, frappent aux portes, à toutes les portes. Cherche, cherche encore. L'inquiétude devait être à son comble, l'angoisse aussi, car on est déjà le soir du deuxième jour. Alors le troisième jour, malgré leurs efforts, découragés de ne pas l'avoir trouvé, ne sachant plus que faire, ils décident d'aller au temple, confier leur peine à Dieu et lui demander du secours. Or, surprise, il était là, assis au milieu des docteurs, occupé à les interroger et à les écouter. Et Luc, au verset 47, nous décrit une scène inoubliable. Voilà ce qu'il dit. Tous ceux qui l'entendaient était frappé de son intelligence et de ses réponses. Ses parents aussi furent témoins de la scène, et ils furent aussi saisis d'étonnement. Aussi, lorsque Marie lui dit, sur un ton de reproche, peut-être même fâché, parce qu'il y avait de quoi, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte ? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Là, la réponse de Jésus est stupéfiante. Non seulement il ne s'excuse pas, mais c'est pratiquement lui qui s'étonne et qui interroge. Il leur adresse même un reproche en leur disant « Ne saviez-vous pas qu'il fallait que je m'occupe des affaires de mon père ?» Ce sont d'ailleurs les premières paroles de Jésus dans l'Évangile, les seules qu'il va prononcer pendant 30 ans. Mais elles nous révèlent qu'à 12 ans, il connaissait déjà son identité profonde. Et elles nous résument aussi ce que sera son activité jusqu'à la croix, c'est-à-dire faire la volonté de son Père. Alors donc, aux larmes de ses parents, il oppose les intérêts de son Père. Il tient à marquer les distances, car il savait où il devait être et ce qu'il devait faire. Mais en plus d'être étonné, Luc nous dit que Marie et Joseph ne comprirent pas ce qu'il lui dirent, ce qu'il leur disait. Pourtant, ils savaient déjà beaucoup de choses sur Jésus, et des choses pas ordinaires. Marie connaissait l'annonce de l'ange Gabriel, les messages des bergers et les paroles du vieux Siméon et de la prophétesse Anne. Donc, il comprenait bien les mots et leur signification grammaticale, bien sûr. Mais ce qu'il ne comprenait pas et ce qu'il ne pouvait pas saisir, c'est les conséquences de ce qu'il savait, l'importance, la profondeur que ces paroles contenaient, car eux n'avaient pas trouvé dans l'Écriture tout ce que Jésus, lui, avait trouvé. Les Écritures dans l'Ancien Testament étaient pour Jésus la nourriture de son âme. Chaque Israélite était d'ailleurs tenu de les lire et de se familiariser avec elles. Mais pour lui, ces Écritures avaient encore une toute autre signification. Il en était lui-même le contenu. Ce livre était pour lui comme une lettre. Une lettre qu'il devait d'ailleurs trouver sur la terre après son incarnation. Mais ce verset 47 pose quand même beaucoup de questions, auxquelles d'ailleurs nous aimerions une réponse. Comment cet enfant de 12 ans seulement a-t-il pu impressionner à ce point les docteurs de la loi? Les rabbins savaient bien que Jésus n'avait pas fréquenté leur école. Pourtant, ils étaient obligés de constater qu'il avait une grande connaissance de l'Écriture. D'où lui venait-elle? Si à 12 ans, il surprenait déjà par l'étendue de son savoir, plus tard, pendant son ministère, c'était pareil. Nous le voyons dans sa réponse aux Sadducéens, lorsque ceux-ci lui posent la question au sujet de la résurrection. Voilà ce qu'il leur dit. « Vous êtes dans l'erreur, leur dit-il, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. » La réponse de Jésus est sans appel. Il souligne leur manque de compréhension et de connaissance des Écritures. Il fait le même reproche à Nicodème quand il lui dit « Tu es docteur en Israël et tu ne sais pas ces choses ?» Et pourtant, parmi les Juifs, Nicodème était un personnage important. La foule était frappée par la puissance de son message car lorsqu'il parlait, il n'hésitait pas, il affirmait. Et ce qu'il déclarait n'était jamais remis en question. Quand il disait, sermon sur la montagne, « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens ?» Il savait rajouter avec autorité, « Mais moi, je vous dis. » Pour résister à la tentation, Jésus disait, « Il est écrit. » Donc il se servait toujours de l'écriture. Et lorsque l'adversaire lui citait un verset, il en corrigeait tout de suite l'interprétation par un « mais il est aussi écrit ». Homme sans intelligence, dit-il après sa résurrection aux deux disciples d'Emmaüs. Alors il leur explique tout ce qu'il concernait dans les écrits de Moïse et des prophètes, texte que ses deux disciples avaient pourtant lu, relu et peut-être même appris par cœur. La dernière page de l'Ancien Testament est maintenant tournée. Nous voilà donc devant Jésus, Sauveur et Seigneur, dont le vieux Siméon a dit qu'il provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. On remarque qu'il y a dans la déclaration de Siméon le signe du juge universel, celui qui séparera les hommes à la fin des temps. Nous ne sommes pas automatiquement enfants de Dieu. La Bible fait une différence entre les créatures de Dieu et les enfants de Dieu. Jean, dans sa première épître, au chapitre 3, verset 10, nous le confirme. Ainsi, chacun doit se décider. On peut le refuser, alors c'est la chute, perte. On peut l'accueillir, c'est le relèvement, le salut. Dieu ne contraint personne, il nous laisse la liberté du choix. Alors n'oublions pas que la plus merveilleuse histoire du monde, ce n'est pas que l'homme ait marché sur la lune, mais que Dieu soit venu marcher sur la terre à notre rencontre pour nous sauver. Alors, accueillons-le avec toute la gloire qui lui est due. Amen.